I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Vous connaissez le Maxime Dupuy, parfois ronchon, souvent véhément, celui qui s'emporte, celui qui râle pour un oui ou pour un non. L'homme d'image avec ses chemises parfaitement repassées et sa mèche parfaitement travaillée. L'homme de radio, enfin de podcast, avec sa voix qui pourrait vous emporter jusqu'au bout de la nuit. Mais vous, fidèles auditeurs de la Stream Team, connaissez-vous Maxime Dupuy, l'auteur? Le Claude Mbarali d'Eurosport. L'homme au verbe juste, jamais une virgule de trop. Et puis le sens de la formule, toujours. À l'heure où MC Solar ressort ses meilleurs albums, il faudrait sans doute rééditer les meilleurs papiers de Maxime Dupuy. Ce serait d'utilité publique.
Alessandro Zanardi, c'est l'histoire du comeback du siècle. Celui d'un sportif mutilé, qui a perdu ses deux jambes dans l'exercice de sa passion, et en a fait une force, jusqu'à devenir un champion encore plus grand qu'il ne l'était, avant son terrible accident. Une leçon de vie, la leçon d'une vie.
Oh, les frissons. Là, c'est plus un article. Là, c'est un voyage de l'envolée lyrique qui ringardise Prose Combat. Maxime, c'est Rimbaud et Maupassant. C'est Madame de Bovary et la Bête humaine. C'est Solar et Gainsbourg. Donc non, ce n'est pas qu'une gouaille, ce n'est pas qu'un physique. C'est avant tout une plume. Comment ça va, Maxime Dupuy?
Ah, déjà, merci de faire de la pub, de la cross-promo pour les grands récits.
Exactement, bah oui, bien sûr.
C'est plutôt pas mal, il faudrait le faire plus souvent. On va essayer de faire le contraire et de faire de la cross-promo dans les grands récits sur la Stream Team.
Ça va être plus compliqué, ça.
Ça se t'entend.
Non, mais parce que les gens pensent que t'es un petit guignolo comme ça qui, voilà, donne. Non, Maxime, c'est du sérieux, les gars. Maxime, c'est quelque chose. Là, celui qui. On n'a pas pris n'importe qui. Oh, on aurait pu prendre Cyril Morin, Julien Pereira ou Glenn Cellier, mais les mecs, ils sont pas au niveau. Vous avez entendu cette introduction-là? Ce qu'on appelle l'accroche. Là, on y est tout de suite.
En plus, t'as pas... Ouais, il y en a des meilleurs, quand même, j'ai envie de dire.
Ouais, j'ai écouté. Des meilleurs. Et j'avais pas toute la journée, j'avais pris le premier.
Si l'épisode sur Zanardi était très bien.
Bah voilà. Le mec, il se balance des fleurs. Mais c'est vrai que ce que j'écris, c'est pas mal.
Et d'ailleurs, s'il y en a qui aiment le sport automobile, le dépassement que fait Zanardi à Laguna Seca, qui l'a rendu célèbre aux États-Unis, c'est à peu près le même que Grosjean la semaine dernière au même endroit, sauf que Grosjean, il a accroché sa voiture. Voilà, c'était la petite parenthèse.
La petite parenthèse, mais t'as perdu tout le monde, là, parce que je te rappelle qu'on a que des fouteux qui nous écoutent, Maxime.
Oui, vous devrez regarder un peu de sport automobile. En revanche, tu vois, Claude Mbarali, bah, écoute, j'ignorais, je savais qu'il s'appelait Claude.
Ah bah oui, c'est MC Solar, Claude Mbarali.
Je ne connaissais pas son nom de famille, donc tu vois, j'ai au moins appris quelque chose.
Bah, exactement. Mais t'es un peu le MC Solar de Eurosport, Maxime.
Ouais. Quelque part. Mais on a eu. Pourquoi on parle d'MC Solar? On a eu une discussion ce matin sur les paroles et la musique. Et donc on l'a continué maintenant, je pense. Martin voulait me lancer sur l'apport des paroles et de la musique dans la chanson. Mais là, ça pourrait durer des heures. Je suis pas sûr que vous soyez venu pour ça.
Exactement. Mais tout ça pour dire que réécouter du MC Solar, c'est fantastique. Réécouter les premiers albums. Ils sont sortis aujourd'hui, je crois. Quelques-uns, notamment Prose Combat, donc il faut les réécouter.
Et en fait, aujourd'hui, les 30 ans de Nevermind de Nirvana. Quand même.
Exactement.
Et ça, c'est autre chose. Mais bon. On va pas commencer.
On va pas repartir là-dessus, Maxime. On va parler football ou pas football?
D'ailleurs, c'est marrant, personne n'a samplé, je crois, de Smell Lighting Spirit ou quoi que ce soit.
Ça me dit rien. Bah, ça a dû arriver quand même.
Oui, ça a dû arriver.
Ça a dû arriver. On parle football, Maxime? On parle musique ou on parle de tes papiers?
Des fois, j'aimerais bien qu'on parle non pas de mes papiers, mais de musique aussi. Je trouve que ça change et c'est sympa, je trouve.
Ouais, mais en attendant, c'est le FC Stream Team. FC comme football club.
On peut pas tout avoir.
Donc, trois sujets, Maxime, aujourd'hui. On va démarrer avec Karim Benzema qui est en train de tout casser du côté de l'Espagne. Et on va se poser cette question parce que les votes, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Les votes pour le Ballon d'Or, est-ce qu'il peut y croire, Karim Benzema? Est-ce qu'il peut décemment y croire et remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année? Ce sera évidemment le premier sujet de cette Stream Team. Ensuite, on partira du côté du PSG pour parler de Donnarumma.
Ouais, on va faire un peu écho au sujet dont on a parlé, il me semble, il y a 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire la guerre des gardiens, ou du moins la guerre larvée au moins des gardiens entre Donnarumma et Navas. Et on avait donné un constat à la fin de cette émission que c'est un poison pour tout le monde d'avoir 2 gardiens d'un niveau, on va dire, équivalent et en concurrence. Et bien, le poison, il est en train d'arriver plus vite qu'on l'imaginait. Exactement. On reviendra sur ce qu'a dit Donnarumma dans la presse italienne, enfin, ce que Donnarumma aurait dit
ce que son entourage a laissé filtrer.
Voilà, on décryptera tout ça pour dire qu'en gros il serait déjà malheureux, il passerait trop de temps sur le banc. Donc voilà, pour vous montrer que le poison s'instille petit à petit.
Et on terminera avec l'AS Saint-Etienne et le projet de rachat venu d'Asie d'un prince cambodgien. On invitera Philippe Auclair, qui a écrit un article hyper intéressant sur notre site eurosport.fr, et on va se demander qui se cache derrière cette proposition de rachat de l'AS Saint-Etienne. Petit spoiler, il se cache quelque chose qu'on n'attendait pas. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. On est parti, Maxime, t'es prêt?
Bah, c'est parti.
Dans quelques mois sera attribué le Ballon d'Or. Il n'y a pas de favori immense qui se détache aujourd'hui. Et Karim Benzema, avec ses statistiques actuelles, il est l'homme le plus décisif depuis le début de saison. En Ligue des Champions, ça va bien. En Liga, ça va bien. Eh bien, sa candidature prend de plus en plus d'épaisseur. On va maintenant discuter avec Maxime. Est-ce que Karim Benzema est un candidat crédible au Ballon d'Or 2021? Maxime, c'est simple, est-ce qu'il peut gagner?
Est-ce qu'il peut gagner? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est crédible? Oui, tout à fait, parce que son début de saison est stratosphérique. Et on va juste rappeler une chose. Après le match de mercredi, il en était à 8 buts et 7 passes décisives, quelque chose que, à cette vitesse-là, Messi ou Ronaldo n'avaient pas réussi en championnat d'Espagne. Son début de saison est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il est à 2 buts et 3 passes déjà d'un double-double. Faire un double-double sur une saison, c'est exceptionnel. Potentiellement le faire à la fin du mois d'octobre, c'est formidable. Et oui, Benzema met en plus le coup d'accélérateur qu'il faut au moment où les votants, ou les voix, on va dire, c'est-à-dire les opinions se cristallisent sur le Ballon d'Or. Donc oui, en effet, il le fait ça au bon moment. Je ne pense pas que ça suffira. Je pense que ça l'aidera à grimper de quelques rangs, parce que la dernière impression est souvent la meilleure. Et s'il continue comme ça pendant un mois, il pourrait y arriver. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, mais on en a déjà parlé, c'est que tu dis qu'il n'y a pas de favori qui se détache. Non. Mais si, il y en a un qui se détache depuis le début.
Ah, on n'a pas le même. Mais pas, on n'a pas le même, c'est rigolo.
Ah oui, on n'a pas le même. Mais le
donc
mien,
ça veut sans doute, mais... ça veut sans doute dire qu'il n'y en a pas.
Non.
Bah, moi, je te dis que si.
Non, mais moi, je vais te dire un truc. C'est que ce n'est pas parce que le tien est en train de se dégonfler que je n'avais pas raison de mettre le mien. Donc moi, je maintiens que ce sera Robert Lewandowski qui est un favori immense. On en parle un petit peu moins pour une raison simple, c'est parce que il joue au Bayern de Munich, et le Bayern de Munich est un grand club, mais au niveau marketing, c'est pas là où les joueurs sont le plus marketés. Mais n'empêche que ses 41 buts sur la saison dernière, record en Allemagne, là il en est à 13 matchs de suite à domicile en marquant, enfin il marque toutes les semaines, en gros il en est à 7 buts en championnat d'Allemagne. En fait, il est sur sa lancée de 2020, et comme en 2020 il a été injustement privé du Ballon d'Or qu'il méritait et qu'il aurait gagné si le Covid n'avait pas tout arrêté, et que France Football avait attribué la récompense en fin d'année, je pense qu'il l'aura, parce que je pense que ça trottera aussi dans les têtes des votants.
À la différence près qu'en 2020 il gagne la Ligue des Champions, et pas en 2021. C'est une toute petite et légère nuance quand même, Maxime.
Si tu vas dans ce sens-là, dans les joueurs que tu vas citer, il n'y en a pas un qui a gagné ce qu'il fallait. Parce que tu ne vas pas le filer à Jorginho ou à Kanté.
Non, certes, mais Messi a gagné la Copa América. Bref, revenons sur Karim Benzema. Statistiquement, il est candidat. C'est le 5e meilleur buteur en Europe sur l'année 2021. Donc statistiquement, il est dans la course. Et il est excellent à un moment important. Il y a deux moments importants dans l'attribution du Ballon d'Or. On va dire deux moments plus importants que les autres. Il y a la fenêtre mai, juin et juillet quand il y a des compétitions internationales, c'est-à-dire quand les trophées sont mis en jeu, quand les finales se jouent. Voilà, les moments critiques, là, c'est important. Et cette période de la rentrée, septembre-octobre, juste avant que les journalistes ne votent, c'est à ce moment-là qu'on marque les esprits, tu l'as dit tout à l'heure. Et il est autant sur la période mai-juin-juillet, il n'a rien gagné, Karim Benzema, et ça reste quand même un handicap majeur dans la course au Ballon d'Or, malgré tout. Mais dans cette période de la rentrée, c'est le meilleur. Donc voilà, c'est là où sa candidature reprend un peu de poil de la bête. Après, et tu l'as dit, ceux qui ont gagné les finales, ceux qui ont gagné des trophées, je pense à l'Italie à l'Euro ou à Chelsea pour la Ligue des Champions, eux n'ont pas de candidat au Ballon d'Or. Ce qui n'est pas le cas de l'Argentine qui a gagné la Copa América avec Messi. C'est pour ça que Messi, lui, il avait tout, c'est-à-dire les grosses statistiques, parce que lui aussi fait partie du top 5, plus une victoire dans un tournoi majeur. C'est pour ça, et puis parce que c'est Messi, ça en faisait mon favori. Le problème, c'est que dans cette deuxième période cruciale, Messi, il n'est pas là. C'est-à-dire que c'est le seul parmi les candidats qui n'a pas marqué encore et traîne l'idée pour l'instant. Alors, ça peut très vite être démonté. Hein. Il suffit d'un triplé contre Manchester City ou un triplé en Ligue des Champions avant que les journalistes ne votent. Mais traîne cette idée que bah, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien du côté du Paris Saint-Germain et c'est sûr que ça va être un handicap pour sa candidature. Moi, ça reste mon favori, Messi. Mais derrière, je mets effectivement Lewandowski et Benzema qui, pour moi, ont des profils assez semblables, c'est-à-dire des machines à but, mais qui n'ont rien gagné. Benzema a fait un meilleur euro malgré tout que Lewandowski, mais Lewandowski a été champion d'Allemagne quand Benzema n'a pas été champion d'Espagne. Voilà, mais pour moi, ils sont à peu près sur la ligne. Ne pas oublier. Et lui aussi, il fait un retour en flèche. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'euro. Et ça se passe très bien du côté de Manchester United. Donc lui aussi, sa cote, elle est à la hausse.
Être le dark horse de cette course-là qu'on ne voyait pas forcément venir et qui peut se rapprocher. C'est marrant, cette semaine, il y a un journaliste allemand qui m'a demandé qui était le meilleur avançant du monde, sous-entendu, où est Benzema dans cette liste-là. Et finalement, moi, ce que je lui ai dit, c'est que je pense que Benzema n'est pas le meilleur avançant du monde, mais Benzema, il est plus que ça. Finalement, le numéro qu'il avait à l'Euro et en équipe de France, le 19, bah, lui colle bien. C'est-à-dire qu'on le voit avec le Real, c'est un 10 et un 9. Voilà. Il a toujours aimé le ballon, il a toujours aimé toucher le ballon. À des moments, c'était problématique en équipe de France. Et n'empêche qu'aujourd'hui, dans ce Real-là, qui est un peu rajeuni, avec Vinicius notamment, c'est un formidable atout, c'est un formidable capitaine de route parce qu'il est capable de marquer, c'est un leader, il a le brassard, il fait des passes décisives, c'est devenu un joueur, j'ai envie de dire, d'exception, Karim Benzema. Voilà. On a longtemps parlé du lieutenant, longtemps parlé même de ses défauts au début, quand il arrive au Real. Souvenez-vous, ça fait longtemps maintenant que Mourinho voulait le piquer, qu'il parlait que c'était un chat et lui qu'il lui fallait des lions. Regardez-le même, physiquement, la transformation entre le joueur qu'il était à 20 ans, 21 ans, on ne peut pas dire qu'il n'était pas fit, hein. Mais là, c'est vraiment de l'ultra fit. On sent que le joueur est devenu vraiment une machine de guerre. Et je pense que d'avoir côtoyé Ronaldo pendant des années, d'avoir vu l'hygiène et l'éthique de travail de Ronaldo, l'a entraîné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Benzema est à son pic. Maintenant, je pense que ça ne suffira pas pour gagner le Ballon d'Or, mais un top 5, ça me paraît pas mal, ça me paraît plausible.
Il y a un argument massue aussi, Karim Benzema, c'est quand même la vedette et le meilleur joueur du club des Ballons d'Or. Donc quelque si le Real Madrid se met à faire campagne, il aura en plus cette machine derrière lui. Tu l'as dit tout à l'heure, contrairement au Bayern Munich, il est dans la discussion, quoi qu'il en soit. C'est déjà un exploit d'être dans la discussion en n'ayant absolument rien gagné et en ayant une sélection qui s'est fait sortir en huitième de finale de l'Euro. Rien que ça, c'est déjà un petit exploit.
Souvenez-vous que l'année dernière, pas au même moment, mais avant, on pouvait le mettre dans la discussion avec sa fin de saison avec le Real.
C'est vrai aussi.
On parlait justement, je pense même, alors on ne va pas être très originaux, mais je pense qu'on avait posé la même question en fin de saison, donc saison 2019-2020, celle qui avait été terminée plus tard avec le Covid, en se disant Benzema, ouais, c'est un candidat pour le Ballon d'Or.
Mais Lewandowski était pour moi largement devant quand même.
Oui, Lewandowski. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y avait une marge un peu plus importante pour Lewandowski qui aurait dû lui permettre de gagner le Ballon d'Or. Mais je pense vraiment que le Ballon d'Or cette année aura quand même du mal à lui échapper, même s'il y a cette période cruciale. Souvenez-vous, 2013, le Ballon d'Or remporté par Ronaldo, son triplé en barrage de la Coupe du Monde. Alors, il y avait une polémique parce que les votes n'avaient pas été arrêtés au même moment que d'habitude et que Ribéry l'avait mal vécu. Mais ça dit combien la période qui arrive est cruciale. Évidemment, si Benzema termine, je ne sais pas, au mois de novembre, il en est déjà à 15 buts, 12 passes. Peut-être que, mais je pense quand même que sur la durée. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'année dernière avec Lewandowski sur les votants, au moment de le dire, de ne pas faire. Ce sera surtout, sauf un ballon d'or de rattrapage, parce qu'il ne mérite pas qu'on dise ça. Je pense que ça peut peser aussi de dire, ouais, lui, il le méritait, ce serait quand même dommage qu'il n'ait pas eu à cause du Covid. Je pense que ça pourrait peser au moins à 5-10% dans les votes autour de Lewandowski.
Et encore une fois, leur chance, hein, c'est que ni l'Italie aujourd'hui, ni Chelsea ne présentent pour le coup un vrai candidat au top 3. À Chelsea, on pourrait parler de Kanté ou de Jorginho qui a gagné les deux. Mais bon, c'est Jorginho, donc ça paraît absolument impossible de le voir gagner le Ballon d'Or. En Italie, ce serait qui ? Donnarumma qui est élu meilleur joueur de l'Euro. Mais on va en reparler tout à l'heure. Donnarumma, ce début de saison. Puis déjà, c'est un gardien. En plus, son début de saison avec le Paris Saint-Germain le met en difficulté. Donc vraiment, ça risque de se jouer entre, on l'a dit, hein, ces quatre-là. Peut-être Ronaldo, Messi, Lewandowski, Benzema. Peut-être un De Bruyne, mais ça serait compliqué d'avoir quelqu'un d'autre. Et notamment un joueur de Chelsea ou un joueur italien.
Il va y avoir un petit joker pour Benzema aussi, un petit surplus qui n'était pas là il y a encore quelques années, ça s'appelle la Ligue des Nations.
C'est vrai.
Alors évidemment, la Ligue des Nations, c'est même pas la Coupe des Confédérations. C'est sur le palmarès, si vous le gagnez, c'est un petit quelque chose de plus.
Et si deux triplés ?
Mais si mes deux triplés, au moment où l'Europe et le monde aura les yeux rivés là-dessus, parce qu'à côté, ce seront les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça peut peser un doublé contre la Belgique, un but en finale contre l'Italie ou l'Espagne, l'équipe de France qui gagne, Benzema tête d'affiche. Oui, ça peut peser, c'est sûr que... En tout cas, si pour moi, Lewandowski est assez loin devant et reste mon favori ultime, il y a un petit coup à jouer et je pense que Benzema pourrait largement prétendre à son meilleur classement historique au Ballon d'Or. Parce que ce qu'il fait, encore une fois, c'est remarquable. Dans un Real qu'il faut le rappeler, quand même un Real qui est toujours en forme de reconstruction, d'une certaine manière.
Je vais te montrer un petit signe. Alors, c'est dommage, pour ceux qui écoutent le podcast, ils ne vont pas le voir, mais c'est un petit signe que vient de me faire Adrien et qui ne va pas te plaire, Maxime. C'est... Il m'a fait ça. Vous tournez en rond. Tu tournes en rond, Maxime. Voilà. Il m'a fait ça. Il m'a dit, il faut enchaîner parce que vous tournez en rond. Voilà. Donc ça, c'est Adrien.
Et la Ligue des Nations.
Ouais, non, mais Adrien, lui, il s'en fout.
L'argument qui arrive de dernière seconde, comme ça, bim, bam, boum. Préparé, émission préparée de A à Z.
Ouais,
et là, tu nous dis qu'on tourne en rond.
Ouais,
sérieux?
Exactement.
Mais... Non, mais tu sais ce qu'il y a derrière ça? Qu'il veut rentrer chez lui. Là.
Mais oui, il veut rentrer chez lui tranquillement. Il veut retourner voir Galou tranquillement, mettre les pieds sous la table, manger sa petite tartiflette ce soir, être au lit avec ses chaussons à 22h15. Ouais. Comme ça, demain, on se réveille, on est en forme pour le petit week-end. On met ses petits mocassins à gland, on va faire le marché. Non, mais et Adrien, nous, on est des
professionnels. Sans les chaussettes. Hein.
Ouais, bah évidemment. Nous, Adrien, on est des professionnels de l'information. Si l'émission doit durer 2h30, parce que nous, ce qui compte, c'est la satisfaction de ceux qui nous écoutent et pas ton petit confort personnel. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. On enchaîne
quand
même.
Merci de remettre les choses au point, ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien quand même. Et d'ailleurs, allez le pourrir sur Twitter, hein, Adrien Yo, vous retrouverez pourrisse-le, parce que franchement.
T'as dit, ouais, mais cela dit, il va pas être aussi facile à trouver parce que quand tu entends Adrien Yo, tu te dis ça s'écrit Y-O.
Et non, H-I-A-U-L-T. Voilà, allez le retrouver. Deuxième sujet, Maxime, qu'on va aborder, on parlait du Ballon d'Or, Gianluigi Donnarumma, a priori, n'en sera pas parce que ça se passe pas super bien. En ce début de saison, du côté du Paris Saint-Germain, comme on aurait pu l'imaginer, a priori pas lui, parce que son entourage a fait fuiter dans les médias italiens ce vendredi matin une espèce d'impatience du côté de Donnarumma, qu'il ne s'attendait pas à vivre une situation telle que celle-ci, qu'il ne s'attendait pas à être sur le banc, qu'il était du coup un peu maussade, voilà, un peu tristounet, notre ami Donnarumma. Avec Maxime, on en a parlé ici effectivement il y a deux semaines, on se disait que le Paris était assis sur une poudrière avec ses deux gardiens, et ben ça va peut-être exploser un tout petit peu plus vite que prévu. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ces fuites dans la presse italienne de Donnarumma? Je crois que ça t'a un petit peu chiffonné.
Ouais, ça m'a un peu énervé parce que, en fait, si je l'avais en face de moi, Donnarumma, je demanderais, mais tu espérais quoi là? Tu pensais qu'à la fin du mois de septembre, tu allais être numéro 1, que tu allais jouer tous les matchs? Bah non, déjà, il en joue, donc il devrait être content parce qu'il se retrouve quand même face à Keylor Navas qui, jusqu'à preuve du contraire, même si je le dis ici et je l'avais dit il y a deux semaines ou trois semaines, que je trouvais un tout petit peu moins bon cette année. Mais n'empêche que pour les services rendus et pour le talent du joueur, bah c'est plutôt Keylor Navas qui devrait bouder et faire la tronche de se dire « on m'a mis ce gardien dans les pattes alors que je fais le job depuis le début et que j'ai réglé un problème qui était majeur au Paris Saint-Germain ». Donc en gros, il est là, oh, je ne suis pas très content, je ne joue pas assez, et pourtant il joue. Et là, ce qu'on voit venir, c'est une alternance assez régulière en gros entre les gardiens. Il n'y a pas de hiérarchie, et il n'y a même pas de côté 1 et 1 bis, c'est-à-dire ce serait plus, il ferait un peu tourner comme il fait avec des joueurs. Surtout que c'est d'autant plus injuste qu'à la fin, je le redis, je pense qu'il aura le gain de cause de Donnarumma, parce qu'on lui dira, hormis s'il pouvait la situation comme ça, évidemment, que c'est la jeunesse, c'est l'avenir, ils l'ont payé 12 millions par an, donc voilà. Moi, ça me dérange, parce que encore une fois, c'est pas très dur d'ailleurs de savoir d'où ça vient.
Mais bien sûr.
C'est toujours le même.
Voilà. Bien sûr.
C'est son agent, Mino Raiola, qui fait. Certains vont dire qu'il transforme en or tout ce qu'il touche. Moi, je trouve qu'il pourrit beaucoup de choses.
Ah, moi aussi. Oui.
C'est-à-dire qu'il pourrit une situation qui n'a pas lieu d'être. On est à la fin du mois de septembre. Son gardien arrive dans un club où un gardien est en place, où il fait le job. Et là, il arrive en chouinant. Ah, ben la Juve le voudrait. Mais c'est quoi cette pression-là? J'espère que Pochettino, que le PSG, ne va pas bouger là-dessus. Je trouve ça même scandaleux. Voilà. En fait, Raiola fait ce qu'il fait avec tous ses autres joueurs. C'est-à-dire, ah, gna, il n'est pas content, il y a le club. Franchement, mais il faudrait lui fermer le micro à lui, c'est pas possible vraiment. Moi, ça m'agace à un point.
Alors, Maxime, bon, bah, Déjà, on va se calmer, on va prendre les petites pilules ce soir parce que j'ai l'impression que là, t'es vraiment très très énervé.
Mais non, mais non, parce que c'est à cause de... Si le football va dans le mur et des choses comme ça, c'est à cause de types comme ça, tout simplement.
Navas, faut juste rappeler que c'est peut-être la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sur les 5 dernières années. Mais il est d'une fiabilité absolue. Depuis qu'il est là, Paris a fait finale puis demi-finale avec des champions, c'est pas un hasard. On ne peut rien lui reprocher. Donc, c'est pas scandaleux que Donnarumma joue des matchs sur le banc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il s'était renseigné un peu Donnarumma sur les saisons de Navas, sur le poids de Navas dans le vestiaire, sur l'importance qu'il a dans le groupe et sur le terrain, parce qu'il n'y a rien de scandaleux sur ce qui se passe en ce début de saison. Et finalement, toi, tu parles de Mino Raiola qui met le feu dans la presse, mais Mino Raiola qui aussi construit des carrières étranges. À quel moment tu conseilles à ton joueur d'aller au Paris Saint-Germain où est installé Keylor Navas? Voilà, il fait évidemment passer les intérêts pécuniers, l'argent, avant le challenge sportif. Et ça, c'est un problème. Et si Donnarumma, aujourd'hui, doit en vouloir à quelqu'un, c'est pas vraiment à Pochettino, c'est pas vraiment à Keylor Navas, c'est avant tout à Mino Raiola. Et c'est pas la première fois, Mino Raiola. Alors, il a ses torts, mais Mario Balotelli, avec sa carrière chaotique, je pense que Mino Raiola a aussi une petite part de responsabilité. Quand Paul Pogba va à Manchester United, qui a un club qui, à ce moment-là, pique du nez, alors que Paul Pogba, il peut jouer à peu près dans n'importe quel meilleur club du monde, là aussi, on se dit, bah, il y va beaucoup pour l'argent, le challenge sportif, en revanche. Donc, Mino Raiola, il n'en est pas à son coup d'essai. Là, pour moi, je ne sais pas s'il met en danger la carrière de Donnarumma. En tout cas, il stoppe son ascension, c'est clair, puisque même si on est sur une alternance, eh ben c'est quand même un joueur qui va moins jouer, alors qu'il est champion d'Europe, alors que c'est le meilleur joueur de l'Euro. C'est pas, son statut hors du PSG ne correspond pas à ce qu'il va donner à Paris cette saison. Donc ça, pour moi, le problème, finalement, dans cette histoire-là, c'est Mino Raiola. Et puis cette histoire, cet épisode, il risque à un moment donné aussi de mettre en porte-à-faux Pochettino et Leonardo. On sait que Donnarumma, c'est le choix de Leonardo, qui voit sur le long terme et qui a misé sur le portier italien. Mais Pochettino, est-ce qu'on peut lui en vouloir de miser sur le mec qui est le plus fiable dans son effectif depuis qu'il est arrivé? Donc, quelque part, là aussi, il y a quelque chose. Là aussi, c'est une espèce de poudrière sur laquelle est assis le Paris Saint-Germain. Bref, il n'y a rien de bon dans tout ça. Et en plus, les fuites là, dans la presse italienne, c'est...
C'est ridicule. Ouais. On est fin septembre. Allons, s'il n'arrive pas à vivre cette situation-là mieux... Le joueur, fin septembre, alors qu'il savait, comme tu l'as dit, en arrivant au PSG, qu'il se retrouvait face à un gardien, non pas inamovible, mais quasiment dans l'absolu, devrait être inamovible, Navas.
Peut-être un des trois meilleurs gardiens du monde depuis deux ans.
Oui, et au-delà de ça, je vais faire un pronostic, j'aurais peut-être tort, mais je ne serais pas étonné que Donnarumma joue demain et que Navas joue contre City. Voilà. Ça voudrait dire qu'en gros, on est sur un rythme d'un match sur deux. Enfin, ça va, il y a pire, je veux dire, il y a pire. Et quand on arrive dans un club comme le PSG, avec cette situation-là, c'est déjà plutôt pas mal. Moi, je n'étais pas certain que Donnarumma jouerait, entre guillemets, autant sur le premier mois. Voilà, là, c'est comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas de quoi... Et puis même, je veux dire, il ne jouerait pas. Mais à qui la faute? À qui la faute? Il ne fallait pas aller seulement vers le club qui était capable de payer 12 millions d'euros par an et viser quelque chose de plus sportif ou se faire prêter. Voilà. Il a envie de jouer, il n'accepte pas de se faire prêter, qui prouve par A plus B qu'il est meilleur que Navas pour mériter cette place-là. Et là, ce n'est pas des manières de faire. Et puis, ça fout le bazar dans tout le club et ce n'est pas très bien. Voilà. Ce n'est pas des manières.
Et voilà, on nous a encore énervé Maxime, comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme chaque semaine. Si, calme-toi un petit peu, Maxime.
Si on faisait une émission sur Raiola toutes les semaines, je serais énervé toutes les semaines.
T'es déjà énervé toutes les semaines, j'ai l'impression, même si on ne parle pas tout le temps de Mino Raiola. On va essayer de se calmer un petit peu en faisant venir un invité de prestige. Maxime, ça va te faire un petit peu redescendre d'un cran.
Ouais, donc, ça va me faire redescendre d'un cran, mais je ne sais pas si ça va encore moins m'énerver.
Ça, c'est pas sûr.
Pas la présence de notre invité, évidemment,
exactement.
Le sujet.
Exactement, on va parler tout de suite de l'AS Saint-Etienne. On va s'intéresser dans la troisième partie de cette émission à l'AS Saint-Etienne et à un projet de rachat des Verts qui nous vient d'Asie, porté par un des princes de la famille royale cambodgienne, Norodom Ravichak. Et pour en parler, on accueille Philippe Auclair, auteur d'un article remarqué sur notre site cette semaine. Comment ça va, Philippe?
Ma foi, fort bien. Et merci de l'adjectif remarqué.
Mais c'est remarquable.
Et remarquable, merci Maxime, j'attendais, c'était la perche tendue, merci de l'avoir saisi, à demain.
Alors ma première question, elle est très simple, est-ce qu'avec Norodom Ravichak, on est face à un riche héritier qui pourrait faire de l'ASS une nouvelle place forte du football français en injectant des centaines de millions d'euros?
Non. Pas par lui-même, en tout cas. On parle d'un prince, d'un membre de la famille royale, donc qui est le petit-fils du roi Norodom Sihanouk, hein, dont on se souvient bien évidemment, une des figures historiques du Cambodge, et qui est le neveu, non pas le cousin, mais le neveu de l'actuel roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. On parle d'une personne qui certainement est très très aisée, mais n'est pas un multimilliardaire ou même un multimillionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a une fortune suffisamment colossale pour pouvoir prendre ce risque assez étonnant qui est de mettre beaucoup d'argent dans un club de football. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus, comme par exemple, on pourrait penser à Sheikh Mansour et à la famille royale d'Abu Dhabi, dire qu'en fait, la personne qui se propose comme repreneur est en fait, en quelque sorte, le porte-étendard de la famille royale elle-même. Ce n'est pas le cas non plus. Ce n'est pas la famille royale qui est intéressée. D'autre part, d'après les renseignements que j'ai pu avoir venant de spécialistes du Cambodge, la partie de la famille dont vient le prince Norodom Ravitchak est en fait un petit peu en délicatesse avec certains autres éléments de cette famille, ainsi qu'avec le gouvernement cambodgien lui-même. Ce qui signifie qu'on n'a pas affaire ici à un intérêt qui vienne soit d'un multimilliardaire capable de tout changer du jour au lendemain, une espèce d'Abramovitch version cambodgienne, ou d'un fonds d'investissement cambodgien qui serait un petit peu comme le fonds qatari ou les fonds Abu Dhabiens ou d'autres encore, Azerbaïdjan par exemple, mais plutôt à une figure de proue qui en elle-même n'a pas nécessairement les moyens pour mettre 100 millions d'euros sur la table, même s'ils assurent du côté cambodgien que la somme qu'on a citée dans les médias français était en fait plus importante que celle qui serait discutée en ce moment. Parce que les discussions, ça on peut le dire, elles ont bien lieu. KPMG, la firme comptable, qui au passage n'est pas une banque ou un investisseur ou un prêteur ou quoi que ce soit, est là pour un petit peu guider ces négociations avec Bernard Caliazzo et la SSE. Mais on n'a pas en place, en tout cas, une structure ou un repreneur qui, de par lui-même, ait les moyens pour totalement transformer le club. Ça ne signifie pas qu'il n'ait pas des associés qui lui permettent de faire cela. Ça, c'est tout autre chose. La personne elle-même, le prince Norodom Ravitchak, qui n'est, je le répète également, pas le prince héritier non plus, mais simplement un membre de la famille royale, selon toutes les informations que j'ai pu recueillir du Cambodge, je dois le citer en particulier de Jack Adamovich Davis, qui a levé ce lièvre, qui travaille là-bas au Cambodge depuis un bon bout de temps. Le prince n'est pas en mesure lui-même d'assurer le financement total de la reprise de Saint-Étienne.
Alors KPMG a ouvert la data room à ce projet-là, donc c'est qu'il estime le projet suffisamment viable. La question qui se pose aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai mystère du coup autour des fonds portés par Norodom Ravitchak, est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer sur l'origine de ces fonds?
Je suis en train d'essayer de le faire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'en l'occurrence, les seules choses dont on dispose en ce moment, ce sont des indications plutôt que des informations. Et en fait, il y a des questions que l'on peut poser à Norodom Ravitchak. Ces questions ont d'ailleurs été posées directement par mon ami Jack au prince. Et pour l'instant, il n'a pas encore reçu de réponse. Quand on regarde de plus près quelles sont les choses dans lesquelles le prince est impliqué au niveau du business, s'entend, on se rend compte qu'il a d'abord une société au Cambodge et une société à Paris. Et il y a un élément commun dans ces deux sociétés, qui sont des sociétés de conseil, conseil et stratégie, qui s'appelle le Cambodia Consulting Group, qui est donc basé à Phnom Penh, et puis une société qui s'appelle BN Conseil et Stratégie, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré, donc à Paris. Or, les seuls associés que l'on voit à Ravitchak, non cambodgiens, ce sont les frères Ahmed et Abdelkader Bessédic, qui sont d'origine algérienne, de nationalité française, et qui sont basé à Doha, au Qatar. Évidemment, tu peux imaginer que ça m'a fait un petit peu dresser l'oreille quand j'ai vu cela, d'autant plus que les frères Bessédic sont bien connus comme étant des proches, des très très proches même de Nasser Al-Khelaifi. Ils se connaissent depuis très très longtemps. Par exemple, Ahmed, qui est... On m'a dit qu'il était de retour au Qatar maintenant, mais Ahmed, on l'a appelé, je crois que c'est l'équipe qui l'avait appelé l'ombre de Nasser. qui est lui-même un ancien employé de beIN Sports, etc., et qui connaît Nasser Al-Khelaifi depuis une trentaine d'années, en fait, depuis que Nasser était un joueur de tennis qui s'entraînait fréquemment sur la Côte d'Azur, sur la Riviera, et Ahmed Bessédic, donc, aurait fait sa connaissance à ce moment-là, et les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. Il n'est pas le seul, parce que Abdelkader, qui lui aussi est un partenaire en affaires du prince Norodom Ravitchak, est lui aussi quelqu'un qui a des liens extrêmement étroits avec Nasser Al-Khelaifi, puisqu'on le retrouve dans la fameuse affaire de la villa en Sardaigne, qui a valu, on le sait, quelques problèmes au président du PSG, qui est cette villa, vous vous souvenez peut-être, qui avait été prêtée, on va dire ça comme ça, à l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Vinck, secrétaire général de l'instance, et qui faisait l'objet d'un soupçon de corruption passive et active, qui avait d'ailleurs débouché sur un procès, dont l'issue a été un acquittement pour Nasser Al-Khelaifi et une peine de prison avec sursis pour Jérôme Vinck. Cela dit, cette affaire n'est pas finie puisque le parquet suisse a décidé de faire appel de cette décision et considère qu'il y a toujours un arrangement corruptif entre les deux hommes. Et donc, il va y avoir un procès en appel. Je ne peux pas vous donner les dates, mais la chose intéressante, c'est qu'Abdelkader Bessédic, vous pouvez avoir l'impression que je me suis éloigné du sujet, mais en fait, pas tant que ça. Abdelkader Bessédic était l'un des associés de Nasser Al-Khelaifi dans l'achat de cette propriété en Sardaigne. Et cette propriété avait ensuite été mise au nom d'Abdelkader Bessédic. Donc, c'est pour vous dire que les liens dont on parle sont... on doit ajouter au passage, il ne s'agit absolument pas d'accuser l'un ou l'autre de telle ou telle chose, de malversation, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On est dans les faits ici. Et simplement pour établir ce fait qu'il y existe des relations extrêmement proches et même intimes entre cette famille et M. Nasser Al-Khelaifi. On peut également parler, il y a un autre, des frères de Bouadbella Bessédic, qui est également très lié à la famille, à M. Al-Khelaifi, qui avait été directeur de la com du PSG et qui a quasiment un statut de vice-président officieux, on va dire, du club parisien. C'est dire que les liens sont extrêmement proches et que bien évidemment le fait que cette famille soit associée et de longue date avec le prince cambodgien fait qu'on se pose nécessairement des questions, savoir si cette famille est également impliquée dans le possible rachat de la SSE. C'est une question que l'on pose, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une info, c'est simplement une interrogation qui est, à mon avis, complètement légitime.
Ben voilà, donc c'était ma dernière question pour toi. Est-ce que ça relève du fantasme de se dire que peut-être derrière ce rachat, ben, en plus, il y a des liens très étroits entre Bernard Cayazo et Nasser Al-Khelaifi. On sait qu'ils sont proches. Mm-hmm. Ce sont des deux présidents qui comptent dans les instances, notamment du football français. On sait que voilà, ils sont très proches. Est-ce que c'est un fantasme de se dire qu'il y a peut-être le Qatar derrière cette offre de rachat?
La question peut se poser, doit se poser. Je pense que la question, on pourra commencer à y répondre que lorsque l'on saura. Lorsqu'on aura une déclaration justement des Bessédic, par exemple, expliquant s'ils tout d'abord, petit a, sont-ils impliqués directement ou indirectement, que ce soit comme leveurs de fonds, investisseurs eux-mêmes, tout ce genre de choses, avec le prince, première chose. S'ils ne le sont pas du tout, auquel cas on passe à autre chose. Peut-être ont-ils servi de conduit à des négociations, bon, ça c'est autre chose. Et la deuxième question, bien évidemment, c'est que si tel était le cas, ça poserait problème. Ça, très honnêtement, de l'extérieur, ça pose problème, parce qu'en effet, la multipropriété directe ou indirecte des clubs, qui est un fait, malheureusement, dans le football européen et dans le football mondial, n'est pas nécessairement quelque chose qui est des plus favorables à l'épanouissement du football. Et puis surtout, le problème, c'est le manque de transparence. Donc, attendons de voir. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas d'accuser un tel ou un tel d'avoir fait telle ou telle chose qui ne devrait pas être faite. Il s'agit simplement de poser des questions et que vu, un faisceau de faits autour du prince, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir plus de transparence au niveau de la relation qu'il peut entretenir avec en effet des gens qui sont très très proches de Nasser Al-Khelaifi et donc très très proches du Qatar.
Ouais, on va pas avoir d'a priori, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que tout ça aille dans le bon sens globalement. Il n'y a qu'à voir dans le football français. Alors, on parlait de la multipropriété qui est vraiment un problème pour le football parce que tout simplement, l'équité sportive, tout bêtement, comment on fait un club qui rencontre un autre club qui est détenu par le même propriétaire? C'est une aberration déjà d'avoir ça. On a eu l'exemple de Lille. Alors, Lille a été champion de France, ok, mais à quel prix, à quel coût? On a eu Bordeaux à King Street, là, à Saint-Etienne, il y a des questions qui se posent. Finalement, on a l'impression que le football ne peut pas avoir, alors je vais être un peu caricatural, d'investisseurs dits normaux. Quand je dis normaux, c'est des gens peut-être comme à Rennes. On dira ce qu'on veut aussi de Franck McCourt à Marseille, mais il a quand même un côté un peu plus normal, un peu plus côté pignon sur rue, on va dire. On sait d'où ça vient, voilà.
Voilà.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour y arriver, il faut aller vers ça. Et moi, j'ai une question toute bête, Philippe. Alors, c'est sûrement très large, trop large, mais pourquoi le football attire ces gens-là plus que les investisseurs normaux? Et je fais une extension sur l'Angleterre. Est-ce qu'en Angleterre, il y a une forme de sécurité des garde-fous par rapport à ça au moment d'acheter un club de Première Ligue, par exemple?
En Angleterre, pour répondre à la deuxième partie de ta question, Maxime, en Angleterre, il y a des garde-fous, mais qui sont des garde-fous qui ne sont pas plus... quel mot utiliser? Quel mot généreux utiliser? des garde-fous qui sont théoriques, c'est-à-dire que ce sont un petit peu des cases à cocher, un petit peu pour, comme la DNCG par exemple. L'argent est là, on veut les garanties financières, on fait bien évidemment quelques recherches. Est-ce que la personne qui veut ou les personnes qui veulent acquérir un club ont un casier judiciaire, ont été condamnées à ceci? Est-ce qu'ils ont des dettes? Tout genre de choses. Mais bon, qui sont purement de l'ordre de... C'est de la façade, parce qu'on peut, il est tellement facile de se cacher derrière des prête-noms, derrière d'autres sociétés. Et pour répondre à la première partie de ta question, je pense que là c'est un énorme sujet, mais qui vaut vraiment la peine d'être développé. C'est que le football, et je ne vais pas y aller par quatre chemins, le football est une machine à laver. Le football est une machine à laver d'argent sale. Le football est complètement opaque. Les mécanismes de contrôle sont totalement insuffisants, inadéquats. Quand on compare ça, et je sais que c'est quelque chose qui te parlera, Maxime, quand on compare ça avec la transparence qui est mise dans le sport professionnel américain, qui est remarquable, quoi qu'on pense des sports professionnels américains et de tout ce qui ne va pas avec eux, la transparence est absolue. La transparence, par contre, dans le monde du football européen en particulier, n'existe pas. Et très souvent, les investisseurs n'en sont pas. Les fonds d'investissement que l'on voit arriver en ce moment en cascade, n'oublions pas une chose, ces fonds d'investissement, ce n'est pas leur argent propre qu'ils mettent dans les clubs, c'est l'argent des investisseurs qui leur ont confié ces sommes. Et on ne sait pas qui ils sont. Je prendrai un autre exemple qui m'est cher, le fait que une des sources de revenus les plus importantes du football européen en ce moment, ce sont les paris sportifs. Or, les paris sportifs, on le sait, pour un opérateur qui fera les choses comme il faut, on en a 10 qui sont en fait également des machines à laver, basées dans des paradis fiscaux, appartenant à des propriétaires souvent extrême-orientaux, pas nécessairement des plus désirables. Et puis en plus de ça, maintenant, on a une troisième couche, une quatrième couche qui vient s'ajouter à cela, c'est l'arrivée en masse d'entreprises de crypto, de blockchain, et de soi-disant ce qu'on appelle les fan engagement platforms, qui sont elles aussi extrêmement opaques. Donc, c'est une longue réponse, Maxime, et je crois qu'elle devait l'être. Le football est tout simplement une machine à laver de l'argent sale, d'un argent souvent d'origine criminelle, ne mâchons pas nos mots, et du coup, les garde-fous qui sont en place sont totalement insuffisants. Et moi, je suis d'accord avec toi. À côté de certains des investisseurs que nous voyons arriver dans le football en ce moment, et en France et ailleurs, et en Angleterre et partout, je dirais que des gens comme Roman Abramovich sont presque des chevaliers blancs. Bah oui, on peut pas être d'accord sur la façon dont Roman Abramovich a construit sa fortune, se poser des questions sur sa relation avec le Kremlin, etc., 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 mais on sait à qui on a affaire.
Bien. Merci pour ce message d'espoir avant le week-end.
Merci beaucoup. Je passe un plongé dans
un formidable City Chelsea déjà.
Ça va être quelque chose, oui, ça, bon, absolument.
On aura toujours ça à l'esprit en regardant le football ce week-end. Mais bon, il faut le dire en effet. Je ne sais pas où on va, mais on y va tout droit en tout cas.
Merci Philippe en tout cas.
Merci.
Le plaisir était le mien. Je fais une mauvaise traduction de l'anglais. The pleasure was all mine. Au plaisir de vous reparler, les amis.
Merci beaucoup.
My pleasure.
Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Vous retrouvez Maxime, vous avez compris, hein, vous le retrouvez en vidéo, en audio, chez Gallimard, chez la Pléiade. Non, c'est la Pléiade maintenant, Maxime.
Chez Plomb.
Ouais, chez Plomb. J'ai plan. Donc Maxime, artiste multifacette, qui fera votre bonheur. Si vous aimez l'écrit, l'audio, la vidéo, là c'est la totale. C'est
la chanson. La chanson pour les intimes.
Tu veux nous poser une petite chanson? Maxime, tu peux y aller.
Ah non, je le ferai pas. Ah non. Maxime. Non, c'est vraiment pour un cercle fermé.
Ah bah fermé, c'est la rédac. C'est pas un cercle fermé, c'est la rédac toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il nous fait une chanson, Maxime. J'espère qu'un jour, on arrivera à enregistrer tout ça et vous faire les meilleurs moments de Maxime.
Ça doit se trouver.
Ouais, ça doit se trouver. Bah, allez, dès la semaine prochaine, on vous promet un medley de Maxime Dupuis. Je vais aller dans mes WhatsApp, je peux te dire, je vais trouver tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Hit Machine Dupuis. Ciao, ciao.
Le Hit Machine, ça c'est pareil, ça ne nous rajeunit pas.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.